La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour, je suis Camille Ledilly, pasteur à l'Assemblée chrétienne de Toulouse. Nous allons étudier aujourd'hui quelques passages qui parlent de la vie de prière de Jésus. Nous en tirerons quelques leçons utiles pour nos vies de prière personnelles. Après la chute d'Adam et Ève, quand le péché est entré dans le monde, les hommes n'ont pas mis longtemps avant de chercher à se rapprocher de Dieu. Avant ça, pour Adam et Ève, c'était simple. Dieu venait les visiter chaque jour, mais quand ils n'ont plus pu accéder au jardin, ils étaient séparés d'une relation simple avec Dieu. Depuis ce moment, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. C'est ce vide que l'humanité cherche à combler dans une recherche spirituelle. Chaque civilisation montre une recherche des choses invisibles, par tous les moyens. Mais pour nous, l'invisible est devenu visible en la personne de Jésus. Il est écrit dans la Bible, dans le livre de Colossiens 1, verset 15, que Jésus est l'image du Dieu invisible. En nous tournant vers lui, nous avons à la fois un contact avec l'invisible, tant recherché par l'homme depuis toujours, et en même temps avec le monde physique qui nous entoure. Parce qu'il s'est incarné, et selon la citation de saint Irénée de Lyon, il est Dieu qui s'est fait fils de l'homme pour que l'homme à son tour devienne fils de Dieu. Jésus est le centre, il est l'unique chemin de la vie de prière du chrétien. Il est celui qui nous apprend à prier le Notre Père, duquel nous pouvons tirer tant de leçons. Il est celui dont la vie sur terre est un modèle pour nous. Modèle dans beaucoup de domaines, dans les relations, dans l'espérance, dans la patience, dans le leadership, et notamment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans sa vie de prière. Nous allons voir avec quelques passages bibliques, quelques clés de la vie de prière de Jésus pour les appliquer à nos vies. Tout d'abord, Jésus se retirait souvent pour prier. Dans Luc 5, il est écrit au verset 15 et 16, sa renommée, donc celle de Jésus, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et être guéri de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts, et il priait. Jésus se retire, et Jésus choisit la solitude. Ceci en parfaite opposition avec la foule, avec sa renommée qui grandissait, la gloire qui grandissait, qui faisait de lui un homme qui aurait pu ne jamais, au grand jamais, être seul. Il aurait pu être entouré toujours de gens qui l'adulaient, qui le recherchaient, pour ses miracles, pour sa science, pour sa sagesse, pour son amour, pour l'affection qu'il manifestait. Nous aussi, cherchons cette solitude, des moments de silence, sans activité quotidienne, des moments pour chercher Dieu, se tourner vers lui quand le monde pourrait nous rattraper avec tous ses besoins, avec tous ses regards et avec quand le monde peut nous attraper parce qu'il nous montre qu'on est important. Il y a des risques là de chercher notre propre approbation dans le regard des autres et du monde. Et le monde a des priorités qui ne sont pas celles de Dieu. Les choses peuvent nous rattraper si vite. Ça demande de la discipline de chercher cette solitude. Ça demande de réaliser que ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qui va se présenter à nous. Ce n'est pas comme la foule qui se presse et qui se pressait contre Jésus. C'est à nous de le chercher. Jésus l'a lui-même conseillé en expliquant à ses disciples dans Matthieu 6, verset 6. Il dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bon, il faut quand même préciser que Jésus a aussi prié au milieu des gens. Beaucoup même. Pour les malades, pour les disciples. Il est souvent décrit dans la Bible en train de prier à haute voix au milieu des uns et des autres. Quand il dit de prier dans sa chambre, c'est aussi pour confronter ceux qui priaient par vanité face à tout le monde. Une autre leçon que nous pouvons apprendre de Jésus, c'est le temps qu'il a passé en prière. Ce n'était pas des temps courts. Et on peut lire à la suite du passage de Luc 5 tout à l'heure, dans Luc 6, versets 11 et 12, juste avant la foule dans Luc 5 adulait Jésus et sa renommée grandissait. Mais à ce moment-là, Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Le jour du Shabbat, le jour de repos pour les Juifs. Et les pharisiens, les religieux de l'époque, étaient remplis de fureur, il est écrit. Parce qu'il avait fait quelque chose qui était considéré comme du travail, de guérir quelqu'un. Alors il est écrit au verset 11 et 12 du chapitre 6 de Luc. Ils furent remplis de fureur. Et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Les gens étaient furieux contre lui et lui se retire pour prier. Il est écrit que les gens le menaçaient, ils étaient en train de se concerter pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir lui faire en punition d'avoir guéri quelqu'un. Alors Jésus se rend sur la montagne pour prier. Il passe toute la nuit à prier Dieu. Dans les temps de confrontation, dans les temps de douleur relationnelle, de peur, de conflit, nous pouvons nous cacher. Nous pouvons appeler à l'aide et faire nombre avec des gens qui seraient d'accord avec nous. Pour nous protéger, nous secourir. Nous pourrions nous justifier, nous montrer que nous avons raison avec beaucoup d'argumentaire. Jésus aurait pu faire beaucoup de ça. Il aurait pu faire beaucoup de miracles pour montrer que c'était lui qui avait la puissance de Dieu et qu'il avait donc raison. Il aurait pu sortir beaucoup de passages de la Torah et discourir et montrer que c'est lui qui avait raison. Mais là encore, que ce soit au milieu de la gloire possible ou au milieu des conflits possibles, il choisit la solitude. Une petite parenthèse, il choisit un lieu élevé, une montagne. Un lieu loin des choses qui sont notre quotidien de cette terre, qu'on pourrait dire les choses bassement terrestres. La peur nous ramène vers tout ce qui est instinctif. Et ces instincts sont presque animaux. Jésus, lui, il monte sur la montagne. Il passe toute la nuit à prier Dieu. Il cherche les choses élevées. Il cherche les choses spirituelles et non les choses basses. Il cherche Dieu qui a une pensée au-delà et au-dessus de nous. Nous aussi, quand les choses nous assaillent et que nous avons l'impression qu'il y a comme des complots contre nous, des gens qui se liguent, des critiques, des médisances, choisissons de passer du temps dans la prière. Le temps est un facteur important. Nous sommes peut-être très sollicités pour notre temps. Et dans cette société, nous sommes très sollicités pour notre attention. Le temps est un bien très précieux. Et quand nous le donnons, ou en partie au moins, dans la prière, nous mettons notre confiance en Dieu que les choses que nous avons à faire vont se passer avec son aide, d'une façon meilleure et efficace. C'est une façon de racheter le temps et de mettre notre confiance en Dieu que la prière ne sera pas du temps perdu ou gaspillé. Racheter le temps, c'est une expression qu'on trouve dans Colossiens, verset 5 du chapitre 4. Alors quand les choses se pressent autour de nous, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Choisissons de prendre le temps de prier. Sortons de l'exigence de réponse tout de suite. Sortons de l'exigence du répondre aux besoins tout de suite. Jésus s'est écarté pour prier, alors qu'il avait possibilité de guérir les gens. Il avait possibilité de continuer d'enseigner. Les gens auront toujours besoin d'être enseignés. Les gens auront toujours besoin que nous témoignions. Les gens auront toujours besoin de notre aide pour une chose ou une autre. Mais Jésus a choisi de garder du temps dans la prière et de mettre sa confiance en Dieu que ce qu'il allait faire dans le temps dans lequel il allait le faire, ça allait suffire et ça allait répondre suffisamment aux besoins. Et je nous encourage à ça, à sortir du manque du temps, à sortir du poids, de la peur de manquer de temps qui nous met dans une forme d'activisme. Alors rachetons le temps, sortons des cycles de temps qui sont une oppression et un esclavage. Jésus l'a fait et il est notre modèle. Une autre chose que Jésus a fait, c'est qu'il a pris des proches pour prier avec lui. Dans les moments importants, Jésus a su s'entourer de gens qui pouvaient prier avec lui. Alors faisons-le nous aussi. Pour les choses importantes, prenons des amis fidèles, développons des amitiés spirituelles avec des gens de confiance. On va voir deux situations très différentes où Jésus a pris des proches pour prier avec lui. Dans Matthieu 17, d'abord, dans la transfiguration, le moment qui s'appelle la transfiguration. C'est un moment fort pour Jésus. Il prend Jacques, Pierre et Jean pour monter sur une montagne, de nouveau. Et là, il est transfiguré. C'est-à-dire qu'il y a une grande lumière qui apparaît et c'est comme si son corps était déjà transformé en ce qui sera plus tard quand il va être glorifié au ciel. Une immense lumière apparaît aux disciples qui voient ça, qui sont témoins de ce spectacle. Et Moïse et Élie apparaissent autour de Jésus, toujours dans cette grande lumière. Ensuite, la même voix qui est venue au moment du baptême de Jésus se fait entendre, la voix du Père, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Alors nous n'allons peut-être pas vivre quelque chose d'aussi fort que Jésus à ce moment-là. Ni peut-être être témoin de choses aussi fortes que ce que les disciples ont été témoins. Mais ce que Jésus a fait reste un modèle que nous pouvons appliquer. Lorsque nous vivons quelque chose de fort avec Dieu, un temps de prière qui nous a impacté, une parole de Dieu sur notre identité, une révélation, une vocation qui est révélée, partageons-le avec des proches pour prier ensemble à ce sujet. Ça va nous protéger au cas où c'était quelque chose d'émotionnel ou de passager, de pouvoir l'éprouver avec eux. Mais ça permet aussi d'avoir un lieu pour partager et avoir que ces gens proches puissent devenir des témoins. Et après avoir éprouvé cette expérience ou cette parole, l'expérience vécue sera comme gardée en mémoire par d'autres personnes que nous. Et ils vont devenir des témoins pour nous rappeler l'amour et la guidance de Dieu. Si jamais on venait à l'oublier dans des circonstances difficiles ou avec le temps qui passe. Des amitiés fidèles, des amitiés de cœur, mais d'affection et aussi de spiritualité qui peuvent venir à nous et nous dire « Là, je crois que tu t'es perdu. Souviens-toi ce qu'on avait partagé ce jour-là, tu avais vécu, c'était si fort. » C'est important de cultiver ce genre d'amitié. Une autre occasion où Jésus a pris ses disciples les plus proches, c'est pour aller au lieu de souffrance, à Gethsémané. Jésus savait à ce moment-là, il avait déjà compris qu'il avait été trahi par Judas, et savait ce qui allait se passer. Et là, il a prié, et il a pris ses disciples les plus proches, il leur a demandé de veiller un moment avec lui pour prier. C'est raconté dans Matthieu, au chapitre 26. Jésus, qui sait que la crucifixion va bientôt arriver, a besoin de ses amis autour de lui pour supporter ce temps d'attente. Qui aurait pu dormir dans un moment pareil? Et il a besoin de prier. Mais les disciples n'ont pas réussi à rester réveillés pendant ce temps de prière avec Jésus. Ils n'avaient pas pris la mesure de ce qui allait arriver. Jésus savait, il avait tenté de leur expliquer, mais c'était tellement loin d'eux. Peut-être Jésus ne pouvait pas dire aussi précisément. Il avait dit qu'il devait souffrir, qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Mais leur compréhension était comme voilée. Depuis toujours, ils attendaient un sauveur qui allait libérer la Judée des Romains. Un roi qui allait prendre la puissance par la force et par les armes. Et c'était très loin de leur pensée. Un sauveur qui allait mourir sur la croix pour payer pour leurs péchés, qui allait partir et renvoyer le Saint-Esprit pour vivre à jamais dans leur cœur. C'était tellement loin d'eux. Mais Jésus, lui, savait. Et quand il a voulu s'entourer, ils n'ont pas su être là. Et parfois, nous-mêmes, nous ne savons pas être là pour nos amis. Mais parfois, nos amis ne savent pas être là pour nous. Et malgré notre intentionnalité, malgré le fait de s'entourer, on peut se sentir seul. Jésus a dû vraiment se sentir seul dans cette difficulté. D'ailleurs, quand il est revenu vers eux, il leur a dit « Mais vous ne pouvez même pas veiller une heure avec moi ?» Cela me parle du fait que personne ne peut vraiment répondre aux besoins profonds de l'humanité d'être connu et compris. Il y a dans chaque humain un désir profond d'être connu, vu, apprécié, compris. Et ça peut être comblé dans une certaine mesure par des amitiés fidèles dans le couple, mais ce n'est jamais à un point aussi optimal, aussi complet que ce que Dieu peut nous ramener dans de la prière. Il y aura toujours des moments, même dans des amitiés très fidèles ou dans des couples unis, où dans la difficulté, dans la souffrance, on se sentira seul. Mais le fait que de savoir ça n'empêche pas Jésus de s'entourer. Ça montre que même si les amis et les plus proches ne répondent pas entièrement à nos besoins profonds, il faut quand même s'entourer. Il ne faut pas lâcher ça. Ça ne fait pas tout et ça nous rappelle d'aller vers Dieu. Mais c'est important quand même. S'entourer tout en étant conscient qu'ils ne seront pas Dieu. Une autre leçon que nous pouvons tirer du temps de prière de Jésus à Gethsémané, c'est l'abandon à Dieu, même dans les choses difficiles et incompréhensibles. Prier pour chercher sa volonté, pas pour ce qui se passe, ce que je veux moi, mais prier pour avoir la force de se soumettre à ce qui se passe et à la volonté de Dieu, sans vouloir faire plier les circonstances dans mon sens. C'est d'ailleurs un passage important de la prière du Notre Père. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Voilà quelques clés que je voulais développer avec vous aujourd'hui. S'isoler pour prier, donner son temps à Dieu dans la prière, sans compter et sans avoir peur de manquer. S'entourer d'amis fidèles qui seront des témoins de votre cheminement avec Dieu et qui seront des aides précieuses dans les moments difficiles. Et enfin, chercher sa volonté et non la nôtre. Pour conclure, je vais lire le passage de Matthieu 6 dans lequel il y a écrit le Notre Père. Et vous pouvez le dire avec moi si vous le connaissez. On va commencer par quelques versets avant, à partir du verset 5 de Matthieu 6. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous bénis. Soyez vraiment bénis. Que la grâce du Père, du Fils, de l'Esprit soit sur vous pour développer et grandir dans une vie de prière à l'image de Jésus. Au revoir.